trouvez pas la porte. Mais où? C'est super mal indiqué chez vous. C'est super mal indiqué. Avec Lila Kadoumoudadi, Morgane Gagnon, Fanny Ruet, Tristan Lopin, qui accepte que Tanguy Pastureau revienne.
Ouais, je tolère.
Super sympa. Et nos invités sont...
On fait gaffe à toi, franchement.
Et aujourd'hui, nous avons comme invités Audrey Fleurot et Mélie Debout. Mais il était plus court que d'habitude, le Flageur Raphaël, non?
Non, non. Il voulait qu'on ait un petit moment.
C'est moi qui ai traîné. Ah, c'est ça, voilà. D'accord. Ravi donc de vous retrouver. Nous allons parler de HPI, l'événement, puisque ça a été un tel succès lors des premières diffusions que c'est déjà un succès, j'ai envie de dire, signé d'avance, d'autant que la qualité est au rendez-vous. Ils restent fidèles à leur marque, j'allais dire, mélangée enquête et humour et dinguerie d'Audrey Fleurot. On va en parler avec eux, puisqu'ils sont deux, avec Mehdi Debout dans quelques instants, les deux enquêteurs. Mais d'abord, le blind test. Qu'est-ce que j'ai pris comme blind test?
Un truc un peu, j'imagine, autour des hauts potentiels.
Avec des initiales? Genre REM, quoi, mais c'est pas ça.
Ah.
Tu vois?
Bah, je sais pas, on connaissait déjà ça.
Oui, ben.
Bah... Oui, bah, c'est tout le débat.
C'est tout le problème, même.
Alors, attends, bah, ouais. Je pourrais pas dire mon
nom. Fanny, ça dit rien?
C'est français?
Non, non.
Non.
Making Plans for Nigel, c'est XTC. XTC pour la bande Ecstasy.
Oh là là.
Ouais, on est mal barré, hein, j'ai raison.
Si. Là,
ah, c'est là. Là.
Tristan.
ACDC.
Ouais. Oh, putain. Et vous savez à quoi ça correspond, le ACDC?
Des nucléaires?
Non.
Non, je sais pas.
Ah, c'est déçu.
Courant. Oh là. Attends, on souligne ou pas
et
la
vanne? Et c'est même pas encore ma chronique, hein.
Et c'est son métier.
ACDC. courant continu, courant alternatif.
Allez. Là,
voilà. Oh.
Après, c'est un peu décevant, du coup, je trouve.
Vous allez chercher. Il y a une connotation sexuelle dans le courant continu, courant alternatif. Prenez ce que vous voulez.
Yo, Leila.
Yo, oui.
NTM.
Bah alors.
Ça, je l'ai écrite avec eux, celle-là.
Mais ils en souviennent pas, eux.
Tu me rappelles ce que ça veut dire, NTM?
Bah, nique ta mère.
Tu peux être poli, s'il te plaît.
Il est sorti droit.
Je t'ai posé une question gentiment.
Non, parce que je le savais, je sais assez peu de choses sur eux, du coup j'étais content, quoi.
Et qui chante ça?
Ah, je sais, Tristan.
Ah, je sais, c'est les BTS,
oui.
Waouh.
BTS, ça venait de loin.
Ça venait de très loin parce que je l'ai écouté l'année dernière quand j'étais en...
Ça va, ça
dans
va.
Une dépression.
Ouais, bah, c'est de quoi BTS?
Ça courant dire... non alternatif.
Non, 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 ça veut dire...
Beyond the scene.
Exactement.
C'est quoi?
Beyond the scene. Backstage derrière la scène, voilà. Mais ça, alors, en coréen, ça veut dire Bangtan Sony Yondan, qui pourrait se traduire par scout par balle.
Scout par balle.
Je jure.
Scout toujours, ah, ou scout?
Non, non, scout, il a commencé une phrase sans savoir où elle allait.
Vroom.
Non, pas scooter. Aujourd'hui, scooter. Scout vroom vroom. Ok, scoot, d'accord. Vroom, vroom. Mais parce qu'il y a des scouts toujours qui font vroom vroom. Qui chante ça?
Ah.
Oui. Ah. C'est vrai, on me fait remarquer que tu as trouvé quand t'as entendu Métis.
Ouais. Forcément, je suis orienté.
Barbès.
Et voilà, c'est pour ça.
FFF, vous voulons dire
Fédération Française de Funk.
Yes. Qui chante ça?
Tristan.
Oui.
Leila.
C'est LMFAO.
Loving my fucking ass
truc.
Ouais, j'ai que les pires trucs.
Ouais, non,
mais parce que j'ai vraiment envie de la défier, parce que sinon elle est seule, quoi.
Bah, c'est vrai qu'on est assez peu présente là.
Ouais, tu vois. Ouais. C'est vrai que je m'en veux de reconnaître. Parce que...
Attends, il y a un super banco.
3 points pour Leila, 2 pour Tristan, Fanny.
On est là,
Morgane.
Avec le cœur.
This is the moment. Attention. Je me suis trompé. Voici.
Je crois que c'était Nadia.
Je ne vais pas le dire parce que si c'est Nadia,
Nadia.
Tristan.
Layla.
Tristan.
Putain, j'allais le dire.
Tristan, je m'en fous. Tristan.
Ouais, mais Nakata, il a dit son nom, il a attendu longtemps.
Non. Ah oui, mais elle n'a pas le droit de donner la réponse.
J'ai épicé une Layla, j'ai fait que tellement de fois. Mais de toute façon, j'avais balancé REM des deuxièmes titres du playing test.
On est d'accord. Rapid Eye Movement REM, victoire de Tristan.
Oh là là,
et merci d'accueillir Audrey, Flo et Mehdi Nahmou.
Bonjour. Avec Nadie.
Bienvenue, pardon,
Mehdi.
Mais non, mais Audrey est tellement jolie que.
Bien sûr.
Je commence par le pardon,
Mehdi.
Pardon, Mehdi, t'es tellement vilain.
T'es pas rasé, quoi.
C'est vrai.
Tu t'es dit, je fais de la radio, j'y vais comme ça.
Ouais.
Okay, tu sais que c'est filmé maintenant la radio. Hein.
Ah bon
ouais. Ah oui, merde.
Moi, j'ai mis un joli haut, je me suis dit, le bas, on le voit pas, c'est pas grave. On est tous là.
Oui, il est très bien votre bas aussi. Audrey, Floro, Mehdi Nahmou. Non, puis elle a des chaussures dingues aussi.
Ça fait à peine une minute qu'elle est là.
C'est-à-dire que l'ouverture de l'épisode du. Alors, 9e ou 10e, je ne sais plus dans quel. 9e épisode.
Voilà.
Ça se passe dans une boutique justement de fringues et il y a un côté Pretty Woman, je fais des couettes.
Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, the kind I like.
Avec vraiment ce côté, je partage avec ma fille une cabine, je pique des doudounes les plus flashy possibles, des pompes de dingue. Mais c'est le début de la série, on est dans le générique, c'est ça aussi l'une des originalités. C'est jamais la même musique au début, c'est jamais le même générique, mais on est déjà en situation de ce qui va se passer.
Une des choses qui me plaît beaucoup dans la série, c'est qu'il n'y a pas de grammaire. En fait, souvent les séries, elles ont une grammaire, on essaye de retrouver...
On appelle ça une bible, presque, aussi, non ?
Oui, ouais. Et nous, c'est vrai que on peut s'autoriser un peu tous les genres, on peut tout s'autoriser, quoi. C'est une espèce de cour de récré, donc ça, c'est vraiment... c'est chouette, et puis moi, j'aime bien quand on fait un peu des clins d'œil à d'autres films ou à d'autres genres, qu'on fait une espèce de mise en abîme qui permet de voir que... ben voilà, c'est des gens qui ont vu beaucoup de films, qui ont vu beaucoup de séries,
et vous le proposez,
et qui s'en amusent, et qui, oui, bien sûr, et qui ont pas mal d'autodérision. Donc c'est vrai que c'est une version de Pretty Woman en version Morgan Alvaro, puisque maintenant elle a du boulot, et donc le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle va claquer sa paye.
Elle a
donc,
des thunes, voilà, c'est ça. Vous proposez à l'écriture, vous êtes déjà impliqué à ce point-là aussi.
On essaye de brainstormer le plus tôt possible. Après, voilà, moi je lance des envies, mais on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'est vrai que là, l'équipe qui est constituée. Elle roule bien. On a quand même un peu les mêmes envies, le même univers. Donc, mais oui, moi j'essaie de lancer des idées qui prennent ou qui prennent pas.
Et alors, quand on est devant une furie, une tornade, comme Morgan Alvaro, mais pour avoir vu LOL récemment, donc on voit que Audrey Floro elle-même dans la vie est une tornade, comment gérer ça, Mehdi Nahmou? Est-ce que, au contraire, vous êtes dans
vous
votre personnage?
Avant.
Bah, vous gérez pas, en fait.
Non, mais j'allais dire comme Adam, c'est comme le personnage qui est le.
Ah, je pensais Eve, Adam et Eve, ok. Non, le Adam Kardec.
Adam, oui. C'est-à-dire le plus calme possible et dans l'écoute, ce qui est aussi un rôle particulier à jouer.
Bah, le personnage de Morgane et Audrey, les deux, parce que elle a beaucoup d'Audrey. Morgane, c'est une furie, c'est beaucoup de fantaisie. Donc vous écoutez, vous réagissez en fait. Faut être beaucoup à l'écoute.
En faisant gaffe de quoi, de pas éclater le rire.
En faisant gaffe de pas être contaminé à la connerie, quoi, et de faire la même chose. Ce qui, des fois m'arrive, et en fait ça marche moins parce que vraiment le job de Karadec, c'est le clown blanc, quoi.
Oui.
Il doit
subir et il doit pas être le moteur de la vanne.
Exactement, ouais. C'est un mec qui est dans le contrôle, qui est face à une punk, et le contraste est très drôle. Quoi. Et lui, il tient, et elle finit toujours par le faire déraper.
Pour en revenir au point de départ de cette série, avant d'évoquer son succès et la nouvelle saison, le point de départ, vous êtes un véritable flic. Oui.
Psychorigide
en
plus.
Et un bon.
Voilà, mais
complètement psychorigide.
Et qui a peur des femmes.
et qui est accompagné par Bruno Sanchez aussi oui. Dans ses enquêtes, qui lui est un
flic moins fortiche, mais très
oui,
attachant.
Oui, mais, ah ouais. Mais accueillant dans des problèmes de location aussi.
Ah, tout à fait.
Voilà. Ah, il y a beaucoup de cœur.
Exactement, exactement. Comme dans la vie.
Comme dans la vie, exactement.
Et donc vous êtes dans ce commissariat et arrive cette personne qui a un potentiel donc intellectuel extrêmement pointu, puissant et haut, comme l'acronyme l'indique. Comment entre-t-elle dans le commissariat, dans les premiers épisodes? Comment
elle fait les ménages, non?
Le commissaire. Vous voulez qu'on fasse un petit previously?
Non. Ouais, oui, bah non, mais oui. Parce que je. Oui, il y a eu 11 millions et demi de personnes. Elle va évoluer dans cette saison. Elle va évoluer même au sein de la police. Mais il faut quand même resituer le fait que vous n'êtes pas flic, que vous l'êtes, et que finalement les deux vont se compléter.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est la gageure de la saison 2 et ce qui était très important pour moi et les auteurs, c'est que ça ne devienne pas une énième fliquette, quoi, parce que il faut, enfin, à mon avis, c'est important qu'elle se retrouve toujours dans une situation de précarité parce que c'est important qu'elle incarne cette France, enfin, en tout cas, à mes yeux, et c'est vrai qu'il faut, il a fallu trouver un autre système, parce que donc, début de saison 1, elle fait le ménage, en fait, dans ce commissariat, enfin, entre autres, donc, avant que l'équipe n'arrive, donc, c'est-à-dire très tôt le matin. Et c'est pas une acharnée non plus du ménage, donc voilà, elle fait ça un peu vite fait.
Mais elle a un CDI.
Oui, mais
elle a la stabilité
de l'emploi. Elle fait tomber un dossier qui s'étale devant elle, et c'est vrai que voilà, souvent les gens qui sont HPI ne peuvent pas passer à autre chose sans avoir résolu le problème qui s'impose à eux, et donc elle se passionne pour ça, et il se trouve qu'elle résout elle les met vraiment sur la piste.
Elle repère donc, en tout cas des détails qui sonnent à ses oreilles et à ses yeux.
Voilà. Il y a quelqu'un qui a résolu le donc il se rencarde pour savoir qui est cette personne.
Revenons sur le point HPI. Vous dites souvent les personnes HPI réagissent comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu aussi un travail de votre part, de curiosité pour être la plus juste possible dans le rôle de
non,
d'une
parce
HPI.
Que, non, parce que moi, je pour moi, c'est vraiment pas du documentaire. Aller chez Gary Brugnaux, qui est notre auteur principal, pour le coup, a un papa HPI, donc elle est bien renseignée sur le sujet. Et pour le coup, elle, c'est vraiment renseignée. Après, moi, je pense que c'est très important aussi d'avoir la liberté de la fiction. J'ai pas du tout envie de me sentir responsable des HPI, parce que je pense qu'il y en a autant qu'il y a d'individus. Et après, ce qui est compliqué aussi, c'est de faire part, enfin, de faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre de son HPI et qu'est-ce qui est de l'ordre de sa personnalité aussi.
C'est ça.
Moi, je prétends pas incarner les HPI. Il y en a vraiment une diversité folle.
J'imagine que le papa de la créatrice ne s'habille pas exactement comme vous dans la série.
Je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas rencontré. Peut-être que si.
Vous ne sortez pas dans les bonnes
adresses. Non, mais c'est vrai que c'est important que enfin voilà, on c'est quand même ancré sur des éléments concrets. Ça vient pas de nulle part, mais moi voilà, c'est ma version, ma Morgane.
Parfait.
Et son
en tout cas le deuxième souffle, si ça avait été une inquiétude, c'est une réussite, parce que
elle est toujours aussi visible,
elle est... voilà. Non, et puis il y a des vraies idées aussi de réalisation, de tempo, ça va extrêmement vite. Il y a quand même toutes les recettes je dis pas ça pour banaliser, loin de là, mais toutes les recettes d'un policier, c'est-à-dire qu'il y a des premières pistes, on y croit, on est pris par le jeu, on fait soi-même son enquête, donc ça reste quand même, j'allais dire, un policier, mais par un prisme extrêmement original, très rock, dans l'habillage, dans les dessins, dans l'iconographie qui est apportée, dans les jingles qui arrivent par moment, dans la musicalité de la série, et je trouve dans le rythme, ça va extrêmement vite.
On s'amuse avec les codes du genre,
c'est
en
ça.
Fait. On s'amuse avec
on
les codes du genre,
mais
c'est vrai que c'est important quand même de faire en sorte que l'enquête soit la plus vraisemblable possible. C'est toujours un peu compliqué. Moi, je découvre le genre, l'épisode bouclé. Vous avez 52 minutes. Pour moi, c'est important, la vie quotidienne avec les enfants, de la voir indépendamment de l'enquête. Donc ça prend 20 minutes.
Alors,
et concrètement, il vous reste une demi-heure pour monter une enquête.
Et c'est bien foutu.
Suffisamment balèze pour qu'on ait besoin de faire appel à une fille qui a 160 de QI.
Et c'est vraiment bien foutu, parce qu'il y a plein de, et sans donner de nom, plein d'autres séries policières où tout d'un coup, en 5 minutes.
Balance.
Non, en 5 minutes, tout d'un coup, t'as la résolution et tu dis.
Colombo! Oh,
franchement, non, j'ai passé.
Ça, c'est vrai qu'on le savait depuis le début.
Mais j'ai quand même perdu un petit peu de temps à regarder la série. série pour voir que finalement l'énigme policière, elle est même pas le nœud de l'histoire. Et là, pour le coup, dans HPI, on voit vraiment, il y a une explication, c'est hyper rationnel, c'est vraisemblable en fait.
C'est vraisemblable.
On se fout pas de nous.
Il y a forcément un peu de rocambolesque parce que énormément de tueurs en série à Lille.
Ça fait partie.
Bon, mais comme on n'est pas totalement réaliste, moi ce que j'aime, c'est qu'on a un endroit qui est vraisemblable, mais pas réaliste. Il y a plein de choses qui sont un petit peu hors monde, qui nous autorisent quand même une fantaisie. Mais surtout, ce qui est policier, pour le coup, on est carré-carré. Hein.
Ouais, le pari, c'était de mélanger ces deux genres et de prendre autant la comédie que le polar au sérieux, en fait.
Comme ça que ça marche. Comme vous avez évoqué l'image du clown blanc, il faut que les deux soient vraiment dans leur rôle le plus sérieusement possible.
Ouais, il y a un vrai vase communicant. Ouais. Et plus le polar est crédible, plus il y a de la place à la déconne. Et le pari nous a semblé réussi parce que ça a vraiment plu. Mais on ne le savait pas au début.
Oui, et puis plus les méthodes qui ne sont pas vraiment très traditionnelles peuvent fonctionner dans le cadre aussi de la comédie, c'est ça qui est bien.
Ce qui est chouette aussi dans cette saison 2, c'est qu'en fait la saison 1, Morgane est un élément comique dans un monde qui ne l'est pas. Là, la comédie s'est vraiment diffusée à tous les personnages. Donc
ils en deviennent caricaturaux aussi par leur rigidité, par ce qu'ils incarnent. Je ne sais plus comment s'appelle la patronne entre guillemets
Clotilde
du commissariat. Elle est tellement straight que ça en devient une parodie. Sauf que des gens aussi rigoureux dans leur travail, ça existe aussi.
Oui, puis c'est important qu'il y ait des gens rigoureux autour de Morgane parce que.
C'est pas un bon exemple.
Alors, vous rappelez quand même le succès de la première saison, en moyenne 11,5 millions de téléspectateurs.
Ah bon ?
Mais oui.
Oh mon Dieu.
Non, mais c'est plus qu'un match de foot.
Record pour une série française. Ouais, ouais. Enfin, moins qu'une finale de Coupe du Monde, mais plus qu'un match de foot.
Mais plus qu'un match de foot. Absolument. Grosse affiche.
On était confinés, hein. Faut pas. Enfin bon.
Non, mais vous ne commencez pas à dire, ça sera pas pareil pour la deuxième.
Non, mais je me prépare psychologiquement moi parce que ça fausse complètement le rapport.
Jamais depuis 16 ans une série a eu un tel score.
Comment voulez-vous qu'on s'en remette ? En fait, c'est un cadeau empoisonné, ça. Hein.
Ça va être un carton annoncé. En tout cas, il y a eu 175 millions de vues dans le monde entier, puisque 90 territoires diffusent HPI. Tout ça, c'est pour vous donner un bon boulard comme il faut. Et ça revient donc demain à 21h.
On n'a pas la même définition.
À 21h10. Bon, à 21h10 sur TF1. Nous, on est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane Cadignan et elle vous aime pas. Mais alors pas du tout. Pourquoi ne pas aimer Audrey Fleurot et Mehdi Debbouze?
Audrey Fleurot, ça fait plaisir de vous voir en vrai parce que les affiches d'HPI, elles sont tellement par centaines sur mon trajet le matin. Il y en a tellement, à un moment j'ai cru que vous vous présentiez au présidentiel et franchement, j'aurais tellement voté pour vous. En même temps, quand on regarde les chiffres d'audience de la série, a-t-on encore besoin de faire de l'affichage? Franchement, là c'est un peu limite de la provocation pour les programmes qui marchent pas, quoi. Comme, allez non, je dirais rien sur le nouveau programme de Thierry Ardisson, c'est pas gentil. Dans laquelle il interviewe des gens morts. Prochaine invitée, son émission. Oh, balle perdue, pourtant il y a deux flics en plateau. Mehdi Nebbouze, le début de votre biographie, je l'ai lu, on dirait un faux profil Tinder. Naissance à Bayonne, s'installe à Berlin, travaille comme mannequin et menuisier en Italie.
C'est vrai.
Non mais attendez, mannequin et menuisier, j'ai envie de dire pourquoi pas. On a le droit d'être frais, de savoir gérer une scie circulaire, ok. Mais en Italie, Mehdi, vraiment. En Italie, pardon, mais il y a que moi qui l'imagine torse nu dans un 501 Levi's avec une ceinture porte-outil, hein. Et dire genre le gambe del tavolo sono mal fissate. Ça veut dire les pieds de la table sont extrêmement mal fixés. J'ai dit fixé.
Je sais pas ce que ça veut dire.
La nuit a été longue, mon gars.
Non mais c'est vrai.
T'as eu très chaud.
C'est vrai.
On revient au boulard.
Non mais c'est vrai. Non mais pardon. Menuisier, mannequin en Italie. Ce début de carrière, on dirait. Vous savez le générateur de noms de groupes de rap sur Internet. Tu prends ton jour de naissance, le dernier truc que t'as mangé, le prénom de ta mère, et tu deviens Eleven Granola Beach. Bon, faut que ta mère s'appelle Beach, quoi. Ça marche pas à chaque fois. Ensuite, ça se calme un peu dans votre carrière puisque vous tournez avec Steven Spielberg et Ridley Scott. Franchement, Mehdi, vous pouvez me le dire à moi hein, si tout n'est pas vrai. Franchement, on vous jugera pas. Spielberg, Scott, si en vrai vous étiez juste charpentier au Luxembourg, moi je vais pas vous juger, on s'invente tous un peu une vie, regardez autour de vous, moi l'un première, j'invente genre, hey, je suis humoriste, je m'appelle Morgane, je suis antillaise, c'est juste Nagui qui a cru ça le premier jour et ça fait 2 ans que j'ose pas le contredire, regardez ma gueule, c'est évident que je m'appelle Férouz et que je suis pâtissière, quoi, franchement, pardon, mais Férouz. Fanny Ruet, humoriste belge de 27 ans, mais on se moque de qui, ça se voit qu'on l'a trouvé dans un skatepark et qui s'appelle Bobby, quoi. Donc on change tous notre biographie, mais attention, ça va se voir. Du coup, pour vous aider, Mehdi, je suis allée voir dans votre vraie biographie ce qu'on pouvait modifier pour que ça soit un peu crédible. Je suis allée lire vos interviews pour éclaircir le mystère de votre vie et vous dites qu'en fait, vous avez arpenté l'Italie en camping-car. Voilà, déjà, c'est pas pareil. Voilà, vous précisez, mon grand-père paternel était Touareg du Sahara algérien. J'ai donc ce côté nomade en moi, j'adore être sur les routes. Dieu. Toujours une bonne excuse, hein, le côté nomade quand on n'a pas de quoi payer le campanile. Moi, quand je dors devant l'aéroport parce que je veux pas payer une nuit pas complète parce que l'avion il est tôt, je dis que mon arrière-grand-mère était bergère et que ça me rappelle la belle étoile. Alors que c'est juste un matin de plus de ma vie où je vais me brosser les dents dans un Starbucks. Hein. Bref, s'il y a bien un truc qui semble bien vrai, c'est le succès d'HPI, la série. Contrairement aux parents qui disent que leurs enfants sont HPI alors qu'ils sont encore dans leur couche à 7 ans et demi, on n'en peut plus de vous quand ça bave à ce point et que ça pisse sur le tapis. Ça s'appelle un labrador. Ça s'appelle pas un enfant hyper autonome dans sa gestion de la propreté. Moi, je m'en fous, j'ai pas d'enfant, je suis beaucoup trop exigeante sur le soin du père. C'est simple, si le gars est pas menuisier, mannequin, en Italie, c'est même pas la peine d'y penser.
Merci Morgane.
Et Morgane, tu seras en spectacle demain, jeudi et vendredi à la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence.
Merci.
Ah, c'est loin, Aix-en-Provence. Oui.
HPI est de retour sur TF1, déjà sur Salto, depuis le 21 avril dernier, mais sinon en diffusion par semaine, à partir de demain, 21h10. Avec ce succès, il y a eu des changements forcément, vous parliez de pression sur l'audience, mais est-ce qu'il y a eu des changements dans votre manière de travailler, dans la manière de donner la place au rôle, au personnage, au réalisateur aussi, parce qu'il y a plein de réalisateurs différents en fonction des jours.
Non, il n'y a pas eu vraiment de changement. Ce qui est compliqué, honnêtement, c'est de faire 8 bons épisodes chaque année avec une date de diffusion régulière. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est la rigueur du rendez-vous. Moi, je suis très soucieuse de continuer à faire d'autres choses à côté parce que c'est comme ça que je m'amuse. C'est les écarts qui m'intéressent. Et c'est vrai que la première saison, on avait réussi à faire 2 blocs et du coup, on avait pu travailler entre les deux. Là, on a fait les 8 d'affilée. Et du coup, on était vraiment, vraiment, vraiment flux tendu. C'est un peu compliqué. Ce qui est super, c'est que la série nous permet d'aller vers des réalisateurs vraiment super, parce qu'ils sentent qu'il y a un espace. Il y a un terrain de jeu qui est vraiment chouette, quoi.
Mona HH pour les 2 premiers épisodes, ouais. Vincent Jamin pour les 2 suivants, 3 et 4, Jean-Christophe Delpia. Pour 5 et 6 épisodes, et Djibril Glissant pour le 7 et le 8. Vous, Mehdi, vous avez vu des changements par rapport à la première saison?
Pour ma part, il y a eu un gros changement, parce que la première saison, j'étais assez inquiété. Vous savez, quand vous faites une création, vous vous baladez avec beaucoup de questions sans réponse qui sont: est-ce que je vais être crédible? Est-ce que le duo va marcher?
Oui, bien sûr.
Est-ce que la mayonnaise va prendre?
Le ressenti, ouais.
Voilà. Est-ce que le mélange des genres va marcher? Le polar et la comédie? Donc tout ça, il reste sans réponse. Donc moi, c'était assez motivant et flippant.
Vous pensez que c'est risqué comme Barry dans le style? Ouais.
C'est risqué. Et puis, pour nous deux d'ailleurs, parce que le personnage de Morgane, il est quand même très haut en couleur. Donc c'est à quel niveau je monte les curseurs ou pas pour Audrey. Moi, de mon côté, les flics, on en a vu en veux-tu, en voilà. Donc est-ce que mon flic, il va être banal ou il va juste servir?
Ou juste un flic de plus, toi?
Un flic de plus. Ou fade, etc. Donc toutes ces questions qui restent sans réponse tant qu'on n'a pas vu le montage et qu'on ne sait pas si ça va plaire, c'est vrai que c'est un facteur un peu flippant et motivant en même temps.
Mais alors, vous êtes comédien, vous êtes aussi monteur, vous avez fait une formation de réalisateur, vous avez aussi peut-être des attentes particulières de ce côté-là, ou vous aviez peut-être des informations.
C'est justement ce qu'un monteur peut faire après le tournage.
Le montage, ça peut sublimer ou détruire.
Ouais, mais vous aviez peut-être, des infos, vous avez cherché des infos sur ceux qui allaient monter justement la série, parce que ça donne quand même une couleur.
Je suis un peu fou, mais pas à ce point-là.
Après, c'est
confiance.
Faut lâcher. Mais c'est vrai que la saison 1, ouais, moi je viens avec une proposition, je suis un peu toute seule avec ma proposition, quoi. Donc c'est quand même un peu.
C'est couillu.
C'est un peu qui tout double face à des gens en face qui me disent. On est sûr là, avec Mehdi qui m'a quand même dit attends tu vas faire ça.
J'ai fait ça moi. En fait c'est Johnny Depp dans le Pirate des Caraïbes, tu vois, où tout le monde s'est dit il est fou le gars.
C'est super encourageant.
Et au bout d'un moment t'es là, tu fais est-ce que je fais pas une connerie quand même, est-ce que le curseur est au bon endroit là, parce qu'en fait je suis un peu seule avec mon délire. Mais
tout à l'heure vous disiez que chaque épisode était fermé, résolu en tout cas pour l'intrigue, mais il y a quand même une histoire qui est là.
Il y a un fil rouge.
Exactement, et qui se construit dans la réalisation presque, j'avais envie de dire, familiale, dans la vie quotidienne, et un peu professionnelle quand même, des personnages. On les voit aussi évoluer, il y a des enquêtes de l'inspection de la police qui menace, il y a des problèmes de logement, il y a des enfants
d'amour.
Des enfants qui viennent et qui reviennent, des problèmes d'amour, voilà.
Oui, et puis moi j'avais très envie, c'est ce dont je parlais au tout début de la série, moi j'avais été très marquée par Claire de Lune, cette série... Qui ne fonctionnait que sur la frustration du spectateur, en
Bruce
fait.
Willis et Sibyl Shepard.
Oui, voilà, et d'un couple de détectives privés. Donc effectivement, il y avait les enquêtes, mais en fait, on ne regardait que. On attendait désespérément qu'ils se mettent ensemble, et évidemment, au moment où ils se sont mis ensemble, la série a périclité. Mais je veux dire, c'était vraiment de la rom-com.
Ce qui est une leçon.
C'était très, très comédie, quoi.
Vous le dites comme si c'était justement une erreur à ne pas reproduire.
C'est évidemment, c'est tentant, mais en fait, moi, je pense que ce qui est chouette, c'est ces personnages où quand il y en a un qui regarde l'autre regarde ailleurs, et vice versa, quoi. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se rater. C'est un truc que j'aime bien.
Ce qui est chouette, c'est la tension sexuelle qui reste irrésolue, en fait.
Le blanc.
Vous êtes à l'antenne, mais
oui, pardon. Non, mais on est aussi des humains, l'attention, le désir, mais qui reste.
C'est ça.
On travaille vachement sur la frustration, c'est-à-dire tant que ce désir reste vif. Et que les braises sont à chaque fois.
Vous enfoncez tout seul.
Attention, je suis en train de m'enfoncer.
Je vous aiderai pas. J'ai pitié, mais je vous
aide. Situation est tendue.
Et que, voilà, comme ça, merci. Voilà. Cette frustration, elle donne envie de voir, de savoir. Est-ce que. Et c'est vrai que c'est une mine d'or pour la relation de Morgane. Ça y est.
Pardon. Nouvelle arrivée qui est Clotilde M, qui vient un peu justement séparer le couple potentiel.
Exactement, et Clotilde jouant le rôle de quoi, de l'inspectrice de police qui vient faire
l'IGPN,
une enquête.
Faire une enquête parce qu'en fait, la saison 1 finit sur une enquête en off, donc ils sont absolument pas censés enquêter. Et il y a eu fusillade, donc voilà, il se retrouve. Le personnage de Karadec se retrouve.
Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que quand vous témoignez face à Claudie Lem, il y a tout un jeu presque de dessin animé qui vient. C'est vraiment une écriture de réalisation à laquelle on n'est pas habitué dans un presque à la Tex Avery, je sais pas. Enfin, elle raconte des histoires et on voit de véritables images mélangées avec de l'animation avec des dessins. C'est un vrai boulot et un vrai effet de réalisation et un effet comique.
Pour le coup, c'est vraiment Vincent Jamin qui a réalisé les 4 premiers épisodes de la saison 1 qui a vraiment inventé cette notion de flash, l'idée étant de montrer ce qui se passe dans sa tête.
Ouais. Et il y a la réalité et il y a ce que elle ressent.
Et des associations d'idées, et c'est vraiment, alors là pour le coup, un terrain de jeu pour les réalisateurs, parce qu'il n'y a pas une façon, d'ailleurs on voit chaque réalisateur, réalisatrice s'empare de cette partie-là, pour faire un truc, c'est la partie un peu arty, et je dois dire qu'effectivement ça amène un truc c'est ce qui fait que voilà, on n'est pas totalement réaliste, et on est un peu dans sa tête.
Audrey Fleurot, Mehdi Nebbouz sont avec nous jusqu'à 12h30. Dans la série, il y a également donc Bruno Sanchez, que j'embrasse tendrement, Marie Denarno, Bérangère MacNeise, Clotilde M, nouvelle arrivée, Rufus aussi en guest dans cette série, ou Michel Moretti aussi. On va continuer de parler d'HPI jusqu'à 12h30, mais d'abord voici l'humeur de Fanny Ruet sur Skate.
Coucou les zouzous.
Le monde est en feu. Le monde est en feu, donc il est temps qu'on parle des vrais sujets. Les chevreuils. Eh oui, je suis tombée sur un article qui explique qu'au printemps, les chevreuils mangent certains bourgeons qu'ils aiment beaucoup, sauf que ces bourgeons fermentent dans leur estomac et ça provoque chez eux des effets similaires à ceux de l'alcool. Donc aux chevreuils, au printemps, les chevreuils sont bourrés. Ils ont leur propre spring break. Genre, ils font des concours de pelage mouillé et tout. Peut-être ils font des jeux à boire. Bon, après, c'est con, un chevreuil, donc les règles sont simples. Si t'as des bois, tu bois. Voilà.
Non.
Et ça montre clairement qu'on a perdu la loterie de l'évolution. Hein. Parce que le chevreuil, il mange du sucre, son corps le transforme en shot. Moi, je mange du sucre, je le transforme en sieste. Par contre... Ce phénomène remet en question tous nos repères parce qu'en cas d'accident, la police, elle sera comme « Inspecteur Clemson, on vient nous appeler. Une collision entre une voiture et un chevreuil. L'individu était sous. Lequel ?» Les deux Clemson. Et c'est dangereux en vrai. Parce que l'association 30 millions d'amis, alors parenthèse, 30 millions d'amis, imagine les doodles. Mais donc, l'association 30 millions d'amis met en garde parce que, vu que les chevreuils sont sous, ils ont moins peur. Donc, ils vont sur la route, ils se rapprochent des habitations, ils rappellent leur ex. 3h du matin, ils finissent au karaoké à chanter les plus gros tubes interprétés par des animaux sauvages, donc Crazy Frog ou les Eagles.
Yeah.
Et c'est chaud, parce que c'est un délire, hein, les cervidés. Bon, après... Peut-être ils sont faits pour être bourrés. Hein. Eux, ils commencent la soirée à quatre pattes, la chance. Même si, peut-être que le chevreuil, il boit parce que c'est un animal fondamentalement triste. Genre un ruminant qui boit pour ne plus ruminer. Voilà. Wow. Et oui, je vais lancer un groupe de rap avec les animaux de la forêt. Il y aura la fouine et 50 serres. Et il y aurait le sanglier. Non, en vrai, ce qui est dangereux, c'est que ce moment où ils sont potentiellement ivres, les chevreuils, ben, c'est le printemps et c'est aussi la saison où les jeunes chevreuils doivent quitter leur mère et partir vivre leurs propres aventures, découvrir des nouveaux territoires. Ils sont bourrés au moment où ils quittent le nid familial. C'est vraiment comme les humains. Et c'est bizarre, en fait. Parce qu'autour de tes 18 ans, tu choisis tes études, tu votes pour la première fois, tu passes le permis et tu découvres la tequila flambée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est ouf, la période fondatrice de notre vie où on se construit, c'est celle où on boit le plus. T'es censé être l'architecte de ta vie, mais clairement t'étais bourré quand t'as fait les plans, puis t'as vomi sur la maquette. Ça ne fait aucun sens. On devrait plutôt boire de l'alcool à d'autres moments qu'à l'adolescence. Genre enfant, tu te rappelles déjà de rien et tu sais pas marcher. Et puis tu fous la honte à tout le monde en disant des trucs racistes, genre « Maman, pourquoi le monsieur il est noir ?»« Bon, t'es divine, Ludovic. » Ou sinon, on pourrait plutôt boire de l'alcool quand on est hyper vieux. Genre le nombre de fois où en retour de soirée, j'aurais voulu avoir un déambulateur et un lange. En vrai, ça doit être dingue d'être sous et de prendre un stana. Genre « Ouh !» T'essaies de faire des drifts et tout. Autre avantage de se mettre des caisses quand t'es vieux, c'est que t'as pas peur des blackouts si t'as Alzheimer. Si ta femme est fâchée et tu lui dis « Ouais, je sais pas qui c'était cette fille, je me souviens même plus de la soirée », c'est nul comme excuse. Mais si ta femme est fâchée et que tu lui dis « Écoute, je sais plus qui c'est cette fille, je me souviens même plus de la soirée, et qui êtes-vous ? Sortez de chez moi, madame !» Là, c'est intouchable. Donc ça, c'est fou, cette histoire de chevreuil bourré. Mais ça permet d'expliquer quelques-uns de leurs comportements. Par exemple, quand le chevreuil est en rut, il frotte ses bois contre un arbre. C'est sûr, à 100% qui pense que c'est une femelle. Il est trop déchiré pour comprendre que non. C'est comme Guillermo à la dernière soirée France Inter. Ouais. Il était tellement déchiré, il draguait le baffle. Il était là, oh, tu chantes bien. Ça aurait une autre gueule, un Bambi, s'il avait été ivre. Même si concrètement, ce serait beaucoup plus crédible parce qu'il y a peu de chances qu'un si jeune fan ait réellement une si bonne gestion du deuil. Et il y a plusieurs contes pour enfants comme ça qu'il faudrait réécrire pour qu'ils soient plus crédibles et qu'ils puissent réellement préparer les enfants à la vraie vie. Genre Peter Pan. À la fin, Peter, il refuse définitivement de grandir, il se lance dans la chanson et il construit Neverland. La Reine des Neiges. Normalement, il devait y avoir un 3, mais là, c'est pas possible à cause du réchauffement climatique. Genre, Elsa n'a plus rien à congeler à part ses ovocytes. Elle devient barista à Punta Cana où elle est responsable de glace pilée. Tu vois, c'est... Bref, des trucs en phase avec leur époque. Maintenant, je sais pas, je suis pas sûre. Maintenant, si pour la prochaine saison de HPI, vous avez besoin d'auteurs, je suis dispo.
Merci.
Et Fanny, tu seras demain le 12 mai en spectacle à Genève et en tournée dans toute la France, Toulouse, Marseille, Lille, Bordeaux.
Tout l'amour que j'ai pour toi,
ça fait partie de la BO aussi d'HPI, il y a plein de titres.
Baby, living on love, the Sandman says maybe he'll take you above.
Et c'est vrai que la musique apporte beaucoup évidemment à une BO en général, mais à cette série en particulier. HPI, on va continuer d'en parler avec Gabriel Val tout à l'heure, qui est psychiatre, qui a signé un Que sais-je consacré aux adultes surdoués, et voir avec lui ce que implique et à partir de quel moment on peut estimer avoir un potentiel hautement intellectuel ou fort en tout cas. La musique dans vos vies personnelles, Audrey Fleurot, on va justement revenir au rap. En 1999, vous écoutiez... Ça vous renvoie à quelles images? Vous avez envie de bouger, d'accord. Quelles images d'entendre cette musique?
Carrément. Je sais pas, c'est quelle année ça, hein?
99-2001, la période.
Déjà, merde. Ouais.
Vous sortez de l'ENSAT, en fait.
Je sors de l'ENSAT.
C'est quoi l'ENSAT?
L'ENSAT, c'est le nouveau nom. Je suis sortie il y a 20 ans, donc ça fait un moment. C'était la rue Blanche. La rue Blanche était à Paris. Et en fait, il y avait donc deux écoles nationales, le conservatoire et la rue Blanche à Paris. Et donc, il y a eu une décision politique de délocaliser la rue Blanche à Lyon. Et donc, moi, je suis la première promo lyonnaise. Et ça a été 3 années absolument géniales. Bah déjà parce que j'ai pris mon appart, j'avais les APL, c'était super. Et on avait cette école qui venait d'être construite. Et on venait tous des quatre coins de la France et je faisais ce que j'aimais 24 heures sur 24, quoi. Donc c'était super. Et c'est vrai que j'ai eu la chance. En sortant de me retrouver dans le réseau dans lequel j'avais envie d'être, du théâtre subventionné et de travailler directement dès la sortie. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, quand j'y pense, c'est que j'ai eu toujours très très peur de pas travailler. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours beaucoup travaillé.
Ça tient à quoi ça?
Parce que je pense qu'on vous a tellement préparé à ce que ça va être dur. C'est un milieu très compétitif, comme si les autres ne l'étaient pas. Hein, je veux dire, globalement, tous les milieux. Et c'est vrai que on s'est tellement préparé à pas travailler que c'est toujours un peu miraculeux de travailler. Et je me dis, ça commence à faire un bout de temps et ça ne bouge pas.
Et c'était quoi l'éventuel plan B?
Je ne sais rien faire d'autre. mais que dalle, quoi. N'avais pas la moindre bouée de sauvetage, quoi. J'ai fait un bac à 3 théâtres. Vous voyez, moi, j'ai fait un bac où toutes les sciences étaient réunies en une seule et même
épreuve. On a eu le même, hein.
Donc vraiment qui devait avoir un coef 0,5. Enfin, vraiment, vous voyez, donc.
Ah, t'as passé le même bac?
Bah oui.
D'accord.
Bah oui. On comptait pas sur nous sur les sciences, quoi.
Et inversement.
Et tant mieux.
Quant à vous, Mehdi, vous écoutiez à ce moment-là encore du rap. Alors, même question, ça vous renvoie à quelle période de votre vie, 99-2000, vous étiez où en écoutant Eminem?
J'étais pareil, j'étudiais le cinéma à Berlin, à l'école de cinéma, l'équivalent de la FEMIS. Voilà, c'était la fin des années 90 qui était complètement folle à Berlin.
Pourquoi aller à Berlin?
Une histoire d'amour, l'été 89, je suis allé lui rendre visite et je suis resté.
Été 89?
89,
c'est 10 ans avant.
Ouais.
Ah ouais, vous êtes resté 10 ans à Berlin.
Ouais, j'étais barman pendant plusieurs années.
Surtout amoureux.
Ouais, l'histoire a pas été très longue malheureusement, mais c'est grâce à elle que j'ai découvert Berlin. Et la chute du mur est arrivée 3 mois après.
C'était un signe.
Ouais.
on dirait un film, quoi.
Et du haut de mes 18 ans, j'ai...
La chute du mur, c'est pas pour ça qu'elle est partie. Le mur est tombé, je me casse.
Je sais pas.
Non, elle était à l'ouest.
Plus de barrière. Elle était à l'ouest. Ouais, c'est pour ça qu'elle est partie.
Tout à l'ouest. Et puis voilà, j'ai fait cette école de cinéma et l'année 2000 a changé beaucoup de choses parce qu'il y a un étudiant de l'école de cinéma qui faisait son premier long métrage.
Philippos Tsitos.
Exactement, grec, à qui je file un coup de main pour trouver des personnages pour son film. Et vu qu'il était depuis moins longtemps que moi à Berlin, je connaissais plus de monde, en l'occurrence les communautés sud-américaines et les rebeux là-bas. Et il a fini par trouver l'acteur qu'il voulait pour le sud-américain, mais il trouvait pas le rebeu. Et à un moment donné, qui avait 10 ans de plus que moi, qui était petit, gros, avec des lunettes. Donc c'était pas gagné. Mais à un moment donné, en demi-blague, je lui dis « Mais pourquoi tu ne fais pas passer des essais ?» Et c'est ce qu'il a fait. Et il m'a filé un rôle. Et le film s'est retrouvé au Festival de Berlin en compétition.
Mais il a fallu que vous grossissiez ?
Non.
Non, mais il y a des acteurs qui prennent des kilos pour avoir un rôle.
Ouais, non, le délai était trop court. Et puis.
Pas, moi je vous fais grossir en 3 jours.
En 3 jours, je te prends 3 kilos.
On sait faire.
Et Philippe Ostitos, il a changé ma vie complètement. C'est parce que moi j'étais parti pour réaliser et c'est devenu mon métier, quoi.
Et vous montiez des documentaires aussi ?
Ouais, ça c'est ce qui me permettait de bouffer. Ouais. Parce que quand on étudiait là-bas, l'idée c'était de trouver des jobs. Alors j'ai longtemps été barman, mais assez vite, l'espoir c'était de trouver des jobs qui avaient un lien avec le cinéma. Pour au moins gagner sa vie, mais apprendre. Donc le montage.
Premier assistant,
enfin second d'abord, avant ça régisseur, etc. Oui. Ouais.
En 2005-2006, Audrey Fleurot, vous écoutiez. Allez, deux en soirée, ça va être un truc. Hein. Les fins de tournage, Audrey Mehdi. On a la Corée en plus. Gold Digger. Kanye West.
Et vous êtes en 2005 la dame du lac, Audrey Fleurot, dans Kaamelott, notamment 6 saisons de Kaamelott lancée par Alexandre Astier. Un rôle qui vous a aussi permis, je pense, d'être identifié par le grand public, parce qu'il y a non seulement Kaamelott, mais il y a Engrenage à cette même époque, en fait. Il y a deux phénomènes télé.
J'étais beaucoup en hologramme et les gens pensaient que je pipotais quand je disais que j'étais dedans et ils me reconnaissaient pas.
Comment ça ?
J'ai vraiment passé pour.
J'aime bien, elle continue de le dire sur le ton de. Mais c'est moi. Elle me reconnaît pas. Pourquoi elle me reconnaît pas ?
Kaamelott, c'était super parce que c'était tellement. On fait un truc avec des potes dans le garage, quoi, hein, quand même. Et.
C'est une bande lyonnaise ? Est-ce que c'est
une bande lyonnaise. Ouais. On était tous complètement inconnus, que des acteurs de théâtre. Et le génie d'Alexandre Astier, quoi, qui était déjà très sûr de lui. Et là où nous, on était tous un peu ok, viens, on te donne un costume, ok. Alors c'est quoi le texte ? Ouais, d'accord, ok. Et non, c'est des chouettes années, quoi. C'était vraiment chouette. Et oui, et puis effectivement, Engrenage, qui avait rien à voir de l'autre côté.
Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période-là ?
Non, alors ça, je suis je suis vraiment heureuse. Je ne suis absolument pas nostalgique. Je suis pas quelqu'un de nostalgique.
C'est pas votre nature.
Ouais. Je vais toujours être plus intéressée par le prochain projet que par les autres. Et j'en suis assez contente parce que c'est vrai que je me dis, moi, j'ai fait des séries qui ont duré longtemps. Mm. T'as toujours peur d'une petite dépression de plus retrouver.
Postpartum, post-succès.
Ah oui. Tu dis, mais alors, je plus jamais, en fait, Hortense Larcher. Plus jamais, Joséphine Carlson.
15 ans quand même, Engrenage.
Ouais, c'est pas. Et en fait, non, parce que j'ai toujours été plus. Je me suis dit qu'on avait toujours aussi arrêté les séries au bon moment, qu'on n'avait pas fait la saison de trop.
Ça peut être votre fait d'arrêter une série, ça peut être vous qui dites clairement je ne veux pas continuer.
Bah oui, heureusement.
Ça vient des auteurs ou des réalisateurs ou des producteurs.
Non, on n'est pas comme les Américains, on n'est pas booké sur 5 saisons. Mais non, parce que c'est des contrats, ils sont bookés sur 5 saisons. Bon, il y a un zéro en plus sur le chèque, hein, donc ça fait quand même partie du truc. Mais vous êtes bloqué pendant.
Voire 2 zéros en plus.
Oui. Enfin, je n'ai jamais travaillé avec les Américains, donc je ne peux pas vous dire. Mais le fait est que c'est quand même artistiquement, je trouve ça un peu compliqué. Vous savez absolument pas ce qui va se passer avec votre personnage. Vous avez pas la main sur quoi que ce soit. Si ça vous amuse plus, si vous vous y retrouvez pas au niveau des textes, vous êtes coincé.
Vous subissez.
Donc, donc voilà, nous on a cette liberté là qui fait que quand on s'amuse plus, on arrête quoi.
Restons dans le tempo avec Mehdi Nebbou.
Attends, on était aux mêmes soirées.
Beastie Boys. Vous pensiez faire une émission sur le move ou vous êtes sûr de venir sur Inter ? Beastie Boys, oui. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là en 2005 en écoutant les Beastie Boys, Mehdi ?
En 2005, un film allemand qui s'appelle Loki d'or, Schläfer en allemand, a été pris au Festival de Cannes en sélection officielle à Saint-Orégard. Ce qui m'a permis de trouver un agent en France parce que jusque-là, les films que je faisais étaient en allemand. Et ça a été le début. Et
que vous parlez couramment, sans
que je parle couramment, ouais, depuis. Et c'est aussi grâce à cet agent que j'ai pu faire passer des essais à Londres qui m'ont permis de faire le film Munich avec Steven Spielberg qui était tourné en 2005.
Qui est ce monsieur, Leïla?
Je ne sais pas qui est Steven, en tout cas, mais je sais
qu'il y a qui démarre.
Ouais. Je sais que je crois que sa fille, votre frère, c'est lui qui vous dit.
Mais d'où vous savez ça?
Je sais pas.
Waouh. Ouais, en fait, oui, parce que c'est l'agent de mon frère à l'époque, Jean-François Gabart, qui est toujours son agent, qui a bien voulu venir voir le film et me rencontrer, qui dit à mon frère, ben dis donc, tu lui diras qu'à Londres, il y a un casting, il y a Spielberg qui cherche des rôles de terroristes pour Munich.
Ah bah à l'époque, quand t'es rebeu...
T'es pas au commissariat. Enfin, si, mais pas du même côté du bureau.
Oui. Et oui, non, c'est vrai que ça a un peu accéléré le processus le 11 septembre. C'est qu'à un moment donné, bon gré mal gré, sans cynisme aucun, il y a eu beaucoup de rôles pour les rebeux dans les films américains. On était les badass, quoi. Mais quand c'est avec des gens de talent comme Monsieur Spielberg, on est évidemment flatté. Donc j'ai passé ces essais et tout ça a passé par l'agent de mon frère avant même que je sois qu'on travaille ensemble. Et c'est donc lui qui annonce à mon frère que ça le fait, j'ai le rôle. Et mon frère m'appelle.
Vous ne le croyez pas?
Mais non. Bien sûr que non. Je me dis, arrête, c'est cruel.
C'est pas drôle.
Tu peux pas me faire ça, sa fille, c'est pas cool.
Ok, je te rends le ballon de foot, mais t'arrêtes.
Je lui ai fait jurer sur la tête de notre maman.
Ça, c'est oh non!
Si.
Ah, mais ça, c'est l'épreuve ultime.
C'est l'épreuve ultime.
Il peut pas mentir à ça.
Je te jure, sur la tête de maman, t'es dans le prochain Spielberg. Et là, j'étais au milieu de l'aéroport de Nice et j'ai hurlé avec mon téléphone. Et là, gros silence, les gens autour de moi, mais qui est ce malade? Et je leur dis pour rajouter, je suis dans le prochain Spielberg.
Est-ce que c'est ça, mon gars, c'est ça.
Est-ce qu'avec le recul, le bonheur est toujours le même?
Il n'y
a
oui.
pas un degré, un dixième de déception?
Non, au contraire. Bah, en fait, c'est comme un simple. Il y a un côté choc aussi, surtout que j'avais fait deux films qui se battaient en duel. J'ai aucune formation d'acteur, donc j'avais vraiment le complexe du mec qui a pas le bac. Donc vous vous retrouvez dans Spielberg, j'avais le sentiment d'être un usurpateur qui avait piqué le rôle d'un mec, un vrai acteur. Et qui pour le coup aurait mérité. Oui.
Je posais la question de déception de rencontrer ces idoles ou pas, parce que demain nous recevrons Louis Bertignac, membre de Téléphone, qui a rencontré les Rolling Stones, qui a joué avec Erita Mitsuko, machin, et qui a écrit un livre où justement, pour certains, je tease pour demain, on révélera que tout le monde n'est pas forcément les idoles que l'on peut avoir quand on se met à les fréquenter, à travailler avec eux. On peut être par moment déçu de certains côtés.
Ça arrive, bien sûr.
Voilà, si c'est pas le cas pour Spielberg, je suis ravi.
Pas du tout, au contraire.
Parfait. Continuons donc de parler d'HPI et revenons à cette série. Demain, 21h10 sur TF1, la nouvelle saison. 8 épisodes vous attendent. Évidemment, Audrey et Mehdi sont avec nous jusqu'à 12h30. Gabriel Val nous a rejoint. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Je dois dire docteur.
Vous pouvez dire Gabriel.
D'accord.
Allez.
Docteur. Vous êtes psychiatre, vous enseignez la psychologie clinique à l'université Paris 7 et vous avez écrit Les adultes surdoués aux éditions Que sais-je. La définition de HPI, elle peut vraiment s'en tenir à l'explication de l'acronyme ou il y a une autre explication à donner?
Alors, il y a plusieurs termes pour désigner le HPI. Il y a le haut potentiel intellectuel, mais il y a aussi pour les enfants intellectuellement précoces, qui peut se traduire parfois très banalement par un saut de classe ou par un bac à 14 ans par exemple. Il peut y avoir aussi le terme surdoué, mais qui est un peu élitiste, ou il peut y avoir aussi le terme au QI, qui fait référence à la mesure par les tests. Donc on a
élevé, on considère qu'il est élevé à partir de
130. C'est par convention, on est HPI à partir de 130. C'est évidemment une convention qui mérite 1000 commentaires d'atténuation. On peut être surdoué à 120 et l'être un peu moins à 135 parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans l'expression de l'intelligence. Mais globalement, la convention c'est 130.
Ce que je veux dire, l'intelligence se mesure à quoi finalement? Au raisonnement, à la rapidité de l'esprit.
Alors le raisonnement, la compréhension, l'accès à la rationalité, l'accès à 1000 facteurs, par exemple la capacité de sur une simple image de découvrir un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, les tests de QI posent des questions dans toutes les directions. Un test de QI, c'est pas un univers, c'est plusieurs univers, et c'est la somme.
C'est pas que de la logique mathématique.
Voilà,
c'est
pas y a que... pas. Voilà, il y a... D'ailleurs, il y a dans les tests de QI des questions qui ne sont pas en lien avec le savoir scolaire.
D'accord.
Pour permettre d'apprécier l'intelligence indépendamment du parcours scolaire.
Parce que le surdoué n'est pas forcément heureux dans le système scolaire.
Alors le surdoué n'est pas forcément heureux dans le système scolaire, mais très globalement il est un peu plus heureux que les autres quand même, parce que c'est un petit peu taillé pour lui.
Est-ce que le fait justement que tout aille très vite, plus vite en tout cas dans le cerveau de quelqu'un de hautement avec un haut potentiel ou un gros QI, est-ce qu'il peut être malheureux justement de cette vitesse à laquelle il va par rapport au rythme, j'allais dire, de monsieur et madame tout le monde, à notre rythme?
Alors,
en disant...
vous posez deux questions. La première, quand vous dites est-ce que ça va plus vite? Oui, c'est un fait que quand on étudie le fonctionnement du cerveau des surdoués ou des HPI, pour un même exercice, une même performance, ils utilisent des circuits plus courts et plus rapides.
D'accord.
Donc ils sont un peu plus écolos en termes de dépenses d'énergie. Voilà, ça c'est la première réponse. Et la deuxième, vous m'interrogez sur...
Sur le bonheur ou pas par
alors,
rapport
voilà, bon. Alors ça, malheureusement,
au monde dans lequel ils vivent.
Nous sommes dans un pays où le bonheur est souvent contesté, et il l'est aussi au HPI, et donc on a pas mal d'auteurs...
Il n'est pas mesurable non plus, le bonheur.
Si, il peut l'être un petit peu quand même, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons en France pas mal d'auteurs apocalyptiques qui ont fait croire qu'être HPI, c'était être malheureux. Et la réalité est tout autre. D'accord. Les statistiques, toutes les études un petit peu sérieuses montrent que les HPI ont une meilleure santé psychique et une meilleure santé physique. Donc il coche toutes les cases de ce que l'on pourrait appeler le bonheur de vivre. Évidemment, il y a des éléments de subjectivité qui échappent aux psys, mais sinon, oui, c'est plutôt une chance. C'est une chance d'ailleurs inégalitaire, parce que on dénonce souvent les injustices sociales, mais il y a autant d'injustices à être surdoué qu'à être né dans une bonne famille, parce que on a d'emblée les privilèges de la nature.
Est-ce qu'il y a un terrain favorable, un terrain familial, atavique pour...
Absolument, ça se transmet plutôt, hein, c'est toujours naturellement des données statistiques. Il y a de nombre d'exceptions, mais ça se transmet plutôt de génération en génération. C'est pour ça que je disais que la méritocratie, si on essaye d'en analyser le sens, elle donne un coup dans l'aile au contrat social.
Voilà, ouais, c'est une connerie.
Est-ce que il y a une tendance, en tout cas de certains parents, à vouloir absolument que leur enfant soit surdoué, à faire passer des tests à tout prix, à leur faire sauter des classes? Est-ce que c'est...
J'ai peur que ce soit... Bien sûr que ce cas de figure peut arriver, mais le plus souvent, les parents ont une assez bonne intuition de la réalité, de l'intelligence de leurs enfants. Et on a même étudié, sur la base de pronostics, si j'ose dire, d'enseignants, de médecins et de parents, ce sont les parents qui gagnent. C'est-à-dire que les parents ont plus souvent raison que les enseignants et les médecins lorsqu'ils disent « mon enfant est surdoué ».
Comme quoi, on les croit absolument subjectifs par amour.
Vous savez, les parents, ils ont envie que leur enfant soit formidable, mais ils craignent qu'il ne le soit pas. Mmh. Et quand vous ajoutez la somme des deux, ça fait finalement un bon équilibre.
Les adultes surdoués, c'est un que sais-je que signe Gabriel Val. Merci d'être venu à ce micro, Gabriel. Le héros du jour, maintenant, monsieur Tristan Lopin.
Troisième héros du jour pour moi, et je vous avoue que jusqu'à hier, en sortant d'ici, je n'avais aucune idée de qui j'allais bien pouvoir parler. J'ai pensé dresser le portrait de l'un de vous, histoire de parfaire mon intégration au sein de l'équipe en vous brossant dans le sens du poil, grisonnant pour beaucoup. D'entre vous, on ne va pas se mentir. Quand soudain, dans une démarche professionnelle de journaliste reporter d'actualité française internationale au sein du service public, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot héros. Les héros sont des personnages réels ou fictifs de l'histoire, exemplaires de la mythologie humaine ou des arts dont les hauts faits valent qu'on chante leurs gestes. Soyons honnêtes, je veux bien faire un peu de lèche de temps en temps, mais personne autour de cette table ne répond à aucun de ces critères. Non, Morgane, je suis désolé, mais danser sur un bar de PMU devant un groupe de mecs qui entament leur 9e pinte de picombière un lundi soir à 21h30, juste dans l'espoir de ne pas avoir à passer une nuit supplémentaire en mitouflure dans ta solitude, ce n'est pas valable.
C'est violent.
J'étais tellement en galère que j'ai commencé à chercher quelle célébrité était née aujourd'hui. Quel était le saint que l'on célébrait en ce 11 mai pour voir s'il n'y avait pas un truc à se mettre sous la dent. Et figurez-vous qu'aujourd'hui sont nés Jean-Baptiste Bussière.
Oui, zéro avenir. JB, bon anniversaire. Comment ça, aucun intérêt? Sans lui, il n'y a pas d'émission, je te le dis.
Ouais, bon, je te le dis. Voilà.
T'as pas dit célébrité?
Oui, mais bon, je voulais lui faire un petit clin d'œil.
C'est sympa.
Laetitia Casta, Brice Hortefeux et le chanteur Renaud. Bon, alors, clairement, pas de la même année ni dans la même région. Hein. On dit toujours, ah ouais, non mais il est taureau, c'est pas commode. Hein. Bah, c'est une bête à cornes. Ah, ces gens qui trouvent des réponses à leur vie amoureuse ratée dans les astres, sérieux, quoi. Comme si on pouvait faire une généralité autour des personnes qui ont le même signe astrologique. Moi, je suis taureau aussi, né le 20 mai, si jamais quelqu'un de l'équipe veut marquer le coup ou créer une canotte litchi. Ça veut dire quoi si on part de là, je vais finir comme Laetitia Casta au bras de Louis Garrel? Je dis pas non, hein. Enfin, ça veut aussi dire que statistiquement, j'ai quand même 2 chances sur 3 de terminer comme Brice Hortefeux ou comme Renaud à un comptoir de bar, un picon tiède à la main devant une lap dance approximative de Morgane Casignan. Toujours debout, certes, mais à quel prix? J'ai aussi appris qu'aujourd'hui c'est la Sainte Estelle et que c'est aussi l'anniversaire d'Estelle Lefébure.
Double, genre,
vous le saviez pas? Je suis pas venu pour rien encore aujourd'hui. Bref, vous le voyez, j'étais en panne d'inspiration quand soudain j'ai appris qu'aujourd'hui c'était aussi la journée mondiale des espèces menacées. Et comme je suis un peu pervers, j'ai tout de suite pensé aux chasseurs et particulièrement à leur président Willy Schraun, je crois, qui a conseillé récemment aux gens inquiets d'être victimes d'un accident de chasse de se promener chez eux. Alors, ça paraît très con comme ça, mais j'ai vérifié. Se promener chez soi, grammaticalement, c'est français. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, j'ai fait ça 2 mois entre mars et mai 2020 dans mon studio de 25 mètres carrés. J'ai fini en position fœtale sous mon évier à envoyer des messages désespérés à tous les mecs de mon répertoire en écoutant du Barbara. Véridique, je me sentais tellement seule. Et à un moment donné, j'ai failli envoyer une dick pic à mon père juste pour qu'il se passe un truc un peu dans ma vie. Donc, pour une fois, on va foutre la paix aux rhinocéros blancs, Gazelle Dama, Daniel Morin et aux abonnés Insta de Tanguy Pastureau et espérer que disparaissent un jour et pourquoi pas aujourd'hui ceux qui sont de l'autre côté du fuseau.
Carrément, merci. Tanguy Pastureau, de quoi ou de qui vas-tu parler?
Je veux parler des jeunes, ces êtres dont chaque jour m'éloigne. Ils ont une vie super, ils font l'amour, ils comprennent le sens des textes de Dejo, mais parfois ils font des bêtises, le Labello Challenge notamment.
On a Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou comme invités pour parler d'HPI qui est de retour sur TF1 demain 21h10 sur TF1 donc, et nous revenons après. Et nos invités Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou.
Pardon, avant d'oublier, je voudrais embrasser Monsieur Morin qui n'est pas venu. Je suis un petit peu déçue.
Qui est cette personne?
C'est notre rendez-vous normalement annuel. Il l'a jamais raté et là c'est la première fois qu'il n'est pas là.
Vous n'êtes pas la première femme qui le cherche, notamment pour les pensions.
Et je suis un peu triste. Ouais, donc voilà, je l'embrasse.
Il vous doit une pension alimentaire qu'il n'a pas versée.
Non, nous avons été très précautionneux.
J'ai l'image maintenant.
Voilà. Quelle horreur.
Il est très content.
Alors j'ai une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que Daniel va bien. La mauvaise, c'est qu'il revient la semaine prochaine.
Ah, mais moi, je peux pas. On va passer notre vie
appelez-vous,
à se rater. Hein.
Appelez-vous, débrouillez-vous.
Il y a un truc qui s'appelle le téléphone. C'est très pratique si vous voulez vous parler directement.
Nous, on joue sur le hasard.
C'est vrai?
Soit
c'est
la
plus
vie.
Bien
sûr.
Mais tellement. HPI revient. Et ça, c'est pas un hasard. Ça sera. Vous avez un message personnel à passer, Mehdi, à quelqu'un?
Oui, à Olivier Su, mon ami d'enfance, qui doit nous écouter. Je t'embrasse, mon pote.
Ça, c'est classe. Enfin, j'espère que vous n'avez pas les mêmes rapports qu'Audrey et Daniel avec votre.
Et alors, moi, j'ai raté la fête des mères. Est-ce que je peux en profiter?
Non,
c'est
des mères, dans le reste du monde, c'était
le 30 mai, Audrey.
C'est Instagram qui m'a mis dedans.
Ah. Mais pareil, je me suis trompé plein de fois. J'appelle ma mère alors que c'est pas
en
le bonjour.
En Belgique, c'était dimanche dernier, je crois. Et c'est fin mai.
C'est le 30 mai.
Oh là là, ouais, mais moi je suis pour la mondialisation.
Ouais, mais quand même, bonne fête, maman. Moi j'ai envie de dire.
J'avais les boules parce que j'avais pas de cadeaux.
Bah voilà.
Et comme il y a eu Covid, ça fait un moment que voilà.
Vous savez qu'on est à l'antenne.
Pardon.
Non, parce que je suis pas sûr qu'on est au top de l'émission de radio là.
Le problème, c'est que cette émission, elle est très sympa, elle dure longtemps, et il y a un moment, on en oublie qu'on est à la radio.
Je sais pas comment le prendre. Ah d'accord, ok, on va le prendre bien alors.
Oui, bien sûr.
Bah oui, on sent bien.
Moi, enfin, elle dure longtemps, je sais pas.
Non, mais forcément, il y a un moment où on se détend.
Ça suffit. Ça suffit.
On se détend.
Là, c'est Morgane maintenant. C'est plus du tout Audrey, quoi. C'est incroyable. Vous lui avez donné une voix, vous lui avez donné un comportement à cette héroïne dans HPI, Audrey Fleurot. Il y a le costume. Il y a plus que le costume. Il y a une gestuelle. Il y a une dégaine. Il y a presque toujours un chewing-gum. J'ai l'impression dans sa manière de parler.
Beaucoup d'aérophagie, du coup, hein, parce que.
On en revient Daniel Morin, on va arrêter avec Daniel, hein, s'il vous plaît.
Les coulisses sont pas toujours glam. Hein.
Oh, Mehdi, un peu d'élégance.
Ben moi, je fais qu'accompagner, c'est son aveu.
Ça, c'est un travail, c'est une chorégraphie, non? ce personnage?
C'était, moi je viens du théâtre, donc c'est vrai que je construis des personnages avec voilà une gestuelle. On a rarement la possibilité à l'image de faire ce genre de choses parce que c'est souvent beaucoup plus naturaliste. Les personnages vous autorisent. Il n'y a pas lieu de se lancer dans des choses. Voilà. Là, j'ai la possibilité effectivement de la faire. Elle prend beaucoup de place physiquement, quoi. C'est-à-dire qu'elle même sa façon de bouger, elle prend de la place. Quoi.
Mais dans son jeu, elle peut être très extravertie et justement, il peut y avoir des ruptures, ce qui arrive dans l'un des épisodes, notamment face à Clotilde. Idem, où bing, elle se remet à parler d'une manière très sérieuse, voire grave, et là ça prend un poids totalement différent, justement. Ça fait presque.
Oui, puis c'est important qu'il y a aussi pas mal de moments où le bouclier tombe, où elle se retrouve quand même très fragilisée, parce qu'en fait. Ce personnage, elle l'a construit aussi, comme moi je l'ai construit. C'est-à-dire que le fait d'être aussi voyante, c'est aussi un bouclier, c'est une façon de se protéger. C'est-à-dire qu'elle est.
On est quand même pas loin de la cagole dans la
dégaine. Ouais, bien sûr. On est entre la cagole, la super-héroïne. Et la licorne.
C'est Wonder Woman,
vous voyez, on est un peu. Mais c'est vrai que c'est, je pense, une protection. C'est-à-dire, c'est tellement, elle est tellement offensive que, l'attaque est la meilleure défense.
Pareil pour vous, Mehdi, dans le costume, il est rigide, étriqué. C'est pas non plus vraiment le costume du flic qui court après les voleurs.
Non, c'est un type plutôt coincé et psychorigide. En fait, les deux, tout semble les opposer, mais parce qu'ils ont un système de défense complètement différent. Celui de Morgan est extrêmement extraverti et lui, il est beaucoup plus introverti et dans le contrôle. Mais derrière, ils se ressentent beaucoup plus que c'est ce qu'ils ne le soupçonnent eux-mêmes. Ils sont plus vulnérables, plus seuls aussi parce qu'elle a un peu de mal à garder ses mecs. Lui, les meufs, ça court pas les rues et il a l'air d'être accro aux apps de rencontre. Donc, c'est ce qui rend touchant ces personnages, c'est que au premier regard, ils s'opposent, mais petit à petit,
je pense à Bruno Sanchez aussi, son personnage est très touchant, on a envie de le prendre dans les bras et de le protéger. Quoi.
Ah ben c'est un nounours. Et puis dans cette saison, il fait des choses incroyables qui sont du niveau de Fernandel, Bourville.
Et moi c'est toujours le truc qui m'inquiète, au catering, il y a une bonne ambiance?
Tu veux dire... Très bonne ambiance.
C'est-à-dire que quand on ne tourne pas, quand on se retrouve et quand on est en troupe, c'est le moment où finalement la série vit aussi. C'est-à-dire c'est à la table régie, c'est au catering, c'est quand on ne tourne pas. C'est ça.
Puis surtout, on tourne 4 mois d'affilée, donc à un moment.
C'est une troupe de théâtre.
C'est votre famille, quoi. Donc.
21 indices demain et c'est mignon de voir que vous êtes inquiet du résultat, du score et de ce rendez-vous parce qu'il y a une véritable attente. Je ne sais pas si vous en rendez compte, en tout cas, mais. Une attente, je parle du public, je parle pas spécialement une attente, une pression de la part de la chaîne ou des audiences, mais simplement que de savoir qu'il y avait cette nouvelle saison qui arrivait, de savoir qu'on allait pouvoir la voir avant qu'elle ne soit diffusée pour vous accueillir, enfin même moi il y avait ce côté appétit en tout cas et attente, et qui n'est justement pas déçu, la qualité est au rendez-vous et le public sera forcément au rendez-vous. Audrey Fleurot, Mehdi Debbouze sont avec nous, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud, Bérangère, McNeese, Clotilde M font également partie de la série HPI demain 21h10 sur TF1. Voici Tanguy Pastureau.
Bon les loulous, ici on est tous âgés, même Fanny Ruet cet été va prendre 28 ans, c'est fou, on l'a pas vu grandir. Elle est arrivée ici, elle était toute jeune, on avait envie de lui talquer les fesses. Alors d'accord, certains ont toujours envie, mais entre temps à l'âge qu'elle a, c'est devenu une perversion. On recommencera quand elle aura 72 ans, mais quand elle aura 72 ans, on sera tous morts. Parlez-lui bien, parce qu'en 2066, lors de l'émission Les Aînés Nagui, elle sera la seule témoin encore là pour honorer notre mémoire avec Michel Drucker. Prenez Daniel Morin, le pauvre, l'âge l'a rattrapé, quand nous on a besoin d'une semaine de congé pour requinquer, il lui en faut deux à ce vieux hibou. Là, il est absent, remplacé par Tristan Lopin, son sosie de barbe. En fait, ici, on a des quotas, mais de poils. Il n'y a pas un noir, mais par contre, il faut 150 000 poils par émission. Le même nombre que dans les soirées gays à San Francisco en 84. Si un jour, on avait reçu ici Emmanuel Macron avec les chemises ouvertes, on aurait eu trop de poils. Il aurait fallu faire sortir Daniel Morin et faire entrer une femme, et encore plutôt de type nordique. Alors, pas d'affolement, Daniel reviendra à l'issue de ses vacances, le 2 juillet, date du début des vacances d'été. Là, il est en stage de développement personnel, voilà, à Amsterdam, alors on n'a pas compris, ou alors quand il parlait de parcourir son moi intérieur, c'était au sens littéral. Alors moi je souhaite que Daniel revienne vite, pas pour lui, je m'en fous, mais juste parce que quand il n'est pas là, le comique le plus âgé de la station, c'est moi, j'ai l'impression de Robert Banater dans une soirée mousse. Donc on est vieux, mais l'âge c'est dans la tête, comme disent tous les vieux. Hein, moi, par exemple, je vois bien que mon corps lâche. Avant, j'avais des pectoraux, maintenant j'ai des seins. Alors je cache ça en disant que je suis en transition. Mais dans la tête, j'ai 16 ans. Je sais, moi, que le nouveau single de Kendrick Lamar vient de sortir. Eh ouais, les bolos. Hein, je remercie Théo, mon petit neveu. Regardez Jack Lang, il a 82 ans. Eh ben, vous lui mettez de la house. C'est pas le dernier à la remuer, sa vieille croupe. Hein, sur le papier, c'est Ramsès II. Il a fait plus de teinture qu'Agnès Varda sur la totalité de son parcours capillaire. Mais intellectuellement, il a la fraîcheur de l'agneau qui n'a pas conscience que l'Eid el-Kébir, c'est le 10 juillet. Et qui trouve que grandir vite, c'est formidable. Et si j'ai un conseil pour pas vieillir dans sa tête, c'est de s'intéresser à ce qui intéresse les jeunes. Moi, je regarde la série Euphoria, je like les stories de Paul Mirabel, j'écoute Bad Bunny. Quand Tristan Lopin hier a parlé de Britney Spears, je lui ai dit bonjour les références de boomer. Hein, c'est ainsi que j'ai appris l'existence du Labello Challenge qui est pratiqué sur TikTok. Alors TikTok, Nagui, vous n'y êtes pas. Il y a juste Tristan Lopin, voilà, qui a 34 ans et qui est donc le plus âgé sur ce réseau, avec Marlène Schiappa, hein, qui en a 39. Alors pour les distinguer, Marlène Schiappa, c'est celle qui parle de ses cheveux, hein, parce qu'on parle toujours de ce qu'on a. Philippe Poutou, il fait pas de chronique sur BFM Business pour causer du Bitcoin, quoi. Et sur TikTok, dont le concept, je te guide, auditeur d'Intermon Loupelé, est de poster de courtes vidéos virales. Fabrice Lucchini a essayé, il a parlé, sa vidéo faisait 7h30. Bon, et ben, il y a des défis. En gros, un jeune fait un truc, parfois génial, parfois idiot, et les autres jeunes l'imitent, parce qu'ils ont envie d'appartenir à une communauté. Ça fait la même chose pour nous, les vieux, quand on téléphone à sa tante, qu'on dit j'ai regardé Meurtre en Moselle sur France 3, et qu'elle répond ah, bah, moi aussi, hein. On se sent appartenir à une communauté. Alors, Meurtre en Moselle, je l'ai vu. Bon, en fait, il n'y avait pas meurtre. Hein, la victime était morte d'ennui. Voilà. Hein, donc le jeune imite, sauf que là, c'est grave. Vœux gras, comme disent les jeunes. Bon, en tout cas, en 93, oui, il disait tout ça. Parce que le Labello Challenge, c'est terrible. Le ministère de l'Intérieur communique. D'ailleurs, pour avertir les parents, si votre gosse demande un Labello, ne le lui donnez pas. Ils écrivent, ils vont encore mieux leur donner de la coke. Voilà. Alors ça, ils n'écrivent pas. Hein, rassurez-vous, parce que je sais que Darmanin est un gros déconneur, mais quand même. Non, pour l'auditeur d'Inter, à qui ses arrières petits-enfants peuvent demander un Labello. Pareil, ne le faites pas, parce que ce défi est atroce. Bon, je vous explique, à chaque contrariété, en gros, l'ado se met du baume à lèvres, et le jour où il n'y en a plus, il se suicide. Voilà. Donc ça donne envie d'enfermer son enfant dans une boîte à chaussures pour qu'il ne grandisse jamais et ne devienne pas ado. Et je ne suis pas sur TikTok, donc il n'y a aucune chance que des jeunes m'entendent. Peut-être Tristan Lopin leur révélera-t-il un jour mon existence. Mais des parents nous entendent, désespérés, parce que parfois leurs enfants utilisent des applis qu'eux ne maîtrisent pas. Et une fois la porte de la chambre fermée, cette chambre où il y a si peu de temps, il jouait à coiffer de petits poneys, il arrive que le jeune, entraîné par d'autres jeunes, dérape. Alors peut-être 2 sur 100 000, c'est pas beaucoup, mais 2, c'est déjà trop. Donc parlez. Parce que nous, les vieux, on a des conseils à donner, de l'aide peut-être. Quand moi j'étais jeune, le réseau social, c'était la Libre Antenne sur Fun Radio, hein, Doc et Difool. Des adultes qui disaient à des ados, c'est normal d'être triste parfois, ou tu n'es pas obligé de faire ce que les autres font, ou simplement on t'écoute, Stéphanie. Les filles alors s'appelaient Stéphanie. Les plus vieux sont pas tous des boulets, parfois ce sont des piliers qui aident à grandir. Alors je sais que l'époque est difficile. Covid, guerre en Europe, changement climatique. Moi, le grand trauma de mon adolescence, c'était la séparation d'Elsa et de Glenn Medeiros. Mais ne vous suicidez pas, parce que sinon on va se retrouver entre vieux à regarder Meurtre à La Rochelle sur France 3. D'ailleurs, spoiler, il n'y avait pas de meurtre. La victime ivre était tombée d'elle-même dans le port de La Rochelle.
Merci, Tanguy Passio. HPI, demain 21h, le début, 21h10, le début de la nouvelle saison sur TF1, d'autres événements late.
Quelle est la particularité de la série Netflix Pearl ?
C'est une particularité.
Alors, petit indice, c'est une série qui est initiée par Meghan Markle.
Ah bah elle n'est pas sortie.
Bravo.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
C'est elle n'est pas sortie tout simplement parce qu'elle a été annulée. Netflix a abandonné cette série. C'est une série animée, c'était ainsi que c'était prévu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une baisse considérable du nombre d'abonnés du service de streaming vidéo américain.
D'accord, mais c'est comme la série constipée.
D'accord. Et est-ce qu'on se fait un petit coup de timbale ?
Ding, ding.
Allez, un petit coup de timbale.
C'est pas sorti.
Constipé.
Waouh, d'accord.
Voilà.
Ah.
Et ouais. Elle t'a jugé. Elle t'a jugé.
C'est donc la dernière bande originale.
Voilà. Si elle n'avait pas demandé, je...
En tout cas, Netflix, qu'on diabolise très très souvent, commence à perdre un tout petit peu de vitesse. Le site a même annoncé avoir licencié du personnel. Donc il y a de plus en plus de projets qui devaient voir le jour qui ont été annulés. Les abonnements sont véritablement en baisse. Alors ça s'explique par la multiplication avec d'autres plateformes, puis, avec une offre.
Ils cassent des contrats aussi, ils rendent des contrats à des artistes qu'ils devaient signer.
Oui, mais le fait que les gens se désabonnent ou ne s'abonnent plus à nouveau, c'est que vraisemblablement il y a une offre aussi séduisante ailleurs sur d'autres plateformes. HPI aurait pu avoir sa place sur une plateforme. Clairement, c'est un projet qui aurait pu très très bien vivre sur une plateforme.
On est sur Disney.
Et bim,
en deuxième fenêtre.
En deuxième fenêtre.
Après la diffusion sur
TF1,
c'est ça.
Tout à fait.
Est-ce que il y a des projets de vos côtés sur Netflix? Est-ce qu'il y a des discussions en cours? Est-ce que on sait que c'est un acteur important maintenant du marché en France aussi?
Bien sûr. Bah, c'est-à-dire en tout cas, le cinéma va mal. Hein, on va pas se mentir. Ouais. Donc c'est vrai qu'à un moment, si vous avez envie que votre film soit vu, bah, les plateformes, c'est quand même très tentant, évidemment. Donc, pour l'instant, rien. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, moi, j'en ai déjà fait des séries pour Netflix, mais pas en direct.
Oui,
en fait.
Oui. Ensuite, ça a été vendu à Netflix. Ouais, c'est encore une autre étape.
Pour le coup, moi, j'ai jamais travaillé en direct avec eux.
Et vous, Mehdi?
Si, moi j'ai déjà travaillé pour une série qui s'appelle Baby, une série italienne pour Netflix. Et il y a des choses qui se profilent, mais c'est pas encore confirmé. Peut-être pour Disney, mais c'est pas encore sûr.
Est-ce que c'est intrusif justement? Est-ce qu'une plateforme se comporte d'une autre manière?
Qu'est-ce que ça change de bosser pour Netflix?
En fait, au début, ils étaient très enthousiastes.
La vérité.
c'est exactement ce que mon cerveau est en train de me demander. Qu'est-ce que je révèle? Qu'est-ce que je révèle
dites
pas?
La vérité.
Alors, et plus jamais il ne travaillera sur Netflix.
Non. Enfin, moi, pour être très clair, j'ai produit des docs pour des plateformes. Ils sont très intrusifs.
Il n'était pas au début. Ouais. C'est que la promesse était belle et les budgets étaient plus larges et on avait plus de temps. Et la rançon de leur gloire et du monopole qu'ils ont, c'est qu'il y a moins d'argent, moins de temps et plus restrictif et plus intrusif. Il existe même une application qui permet aux gens de Netflix de voir le soir ce que vous avez tourné, même s'ils sont pas là, sur leur téléphone. Donc ils ont régulièrement les rushs de la journée et ils peuvent clairement appeler les réalisateurs et dire non, on va changer le découpage, plus de séries, etc.
Et c'est vrai, moi, j'étais tombée sur une vidéo d'un mec qui faisait comment faire un documentaire Netflix sur un serial killer. Et c'est vrai que c'est à mourir de rire parce qu'en fait, tu dis, il y a vraiment une recette.
C'est formaté.
Ouais, c'est de plus en plus.
Et les réalisateurs, sont quand même pas mal drivés.
Ouais. Autre question, quel prix littéraire a été gagné la semaine dernière par la carte postale d'Anne Berest? C'est un nouveau prix.
Les détenus?
Non.
Un nouveau prix, genre un prix de La Poste ou de la RATP ou
un truc comme ça? Un prix dont vous connaissez le nom, qui est assez prestigieux. Version, le Goncourt version. Jeunesse. C'est une nouvelle version. C'est la version États-Unis. Hein. C'est une déclinaison
du Goncourt
du prix français. Ouais, absolument.
Le Goncourt.
Goncourt. Version USA.
Goncourt.
C'est un prix donc qui s'est internationalisé.
Je sors.
Et ce sont en fait des étudiants d'université en littérature française et francophone qui ont désigné le bouquin d'Anne Berest, qui faisait partie des finalistes de toute façon, puisque ils ont planché sur la liste des 9 titres qui étaient en sélection pour ce concours 2021. Je rappelle, c'est le Sénégalais Mohamed Bouar Sarr qui l'a remporté avec La plus secrète mémoire des hommes. Et donc, Anne Berest a ainsi pu avoir un coup de projecteur à l'étranger avec ce prix version États-Unis.
Les auteurs qui sont sélectionnés sont de toute nationalité possible?
Non, c'est le prix Goncourt français.
D'accord.
Il y en a neuf. Eh bien, ils sont proposés à la lecture à des étudiants francophones qui vivent de littérature française, qui ont travaillé les bouquins et qui eux aussi s'expriment. C'est une façon de faire rayonner le Goncourt un peu au-delà des frontières et de faire en sorte que la marque soit plus puissante. On a parlé de l'étranger tout à l'heure et des collaborations à l'étranger. L'expérience Spielberg est quand même une expérience complètement folle, j'imagine. Ça change en termes de, je ne sais pas, de plan de travail, de d'installation, un tournage. En quoi il y a une différence notable avec un tournage français?
Ou de direction, qu'est-ce qu'on apprend avec un Spielberg?
Après, c'est Spielberg.
C'est pour ça, j'ai pas beaucoup de comparaisons.
On n'est pas sur un petit film indé.
Non, mais on a peut-être d'autres éléments de comparaison sur...
Souvent, j'en ai pas fait tant que ça, mais il y a beaucoup plus de monde sur les plateaux américains, même
les
anglais.
Les caterings sont mieux, non?
Non. Attends, où est-ce qu'elle est mieux? C'est en Allemagne, ironiquement, que les caterings.
Les catering.
Par contre, ce qui était décevant, c'est en Italie, c'est qu'on reçoit des plateaux en plastique.
En Angleterre aussi.
Ouais, et là, c'est décevant parce que t'es en Italie quand même.
Ce
qui change, c'est la bouffe. Ouais. Et non, il y a beaucoup de monde en fait. C'est très impressionnant parce qu'il y a 200, 250 personnes.
Et ces personnes servent à quoi?
Sur les plateaux américains, c'est assez impressionnant. Il y a un côté fourmilière et on se demande qui fait quoi.
Pyramide. Il y a tout un protocole où tu passes.
Très hiérarchisé.
Par le 8e assistant qui passe par le 7, qui passe par le 6, on perd un temps fou.
Est-ce que c'est plus confortable?
Ah, c'est un peu flippant au début, hein. Ça impressionne. Hein.
C'est bon. Sérieux.
Ah ouais. Et pardon, surtout quand cette fourmilière s'arrête et que tous ces visages se tournent vers vous et qu'on vous dit action.
Pardon,
j'ai une anecdote.
Là, on a parlé que.
Alors, anecdote.
C'était mon premier jour de tournage sur le Spielberg et j'étais habillé un peu en mode Scarface, c'est-à-dire pantalon blanc, patte d'éléphant blanc, hein, je vous rappelle blanc. Et c'était en studio, enfin, c'était moitié studio, moitié réel. Et je devais ouvrir une porte et il y avait derrière le combo, il y avait, alors, Spielberg, il y avait Mathieu Kassovitz, il y avait Daniel Gregg et Eric Bana.
Qui était devant un petit écran en train de voir ce que la caméra filmait.
Voilà, en train de voir ce gars qui avait fait deux films, qui se battait en duel dans sa vie, qui devait ouvrir cette porte. Et il y a un moment où j'ai une petite envie de flatulence, de me lâcher. Oui, d'accord. Sauf que...
Hommage au personnage de Morgane.
Voilà. Mais Alvaro. Arrêtez ce mythe.
Arrêtez, c'est pas vrai.
C'est vous qui avez dit que
non,
vous
aviez... Non, c'est pas vrai. J'attends donc Rowling, j'attends l'action, j'ai la main sur la poignée. Et je sens ce petit pêche, et je me questionne, je me dis, mon poteau, ce serait bien de le sortir avant de rentrer. Parce que c'est pas classe. Surtout qu'il y a les mecs qui prennent le son. Et puis, l'odeur, faut pas oublier non plus. Jamais sous-estimer. Sauf que, alors là, vraiment, littéralement, je sens que c'est plus qu'un P.
Oh là là.
Et c'est un pantalon blanc.
Mais non.
Je vous jure que cette histoire
est vraie. C'est pas une gastro. En train de raconter cette histoire.
Oui, je sais. Mais non. Et donc là, j'entends action, et jamais cette partie de mon corps a eu cette pression de Surtout, tiens-toi, mon gars. Et j'ai joué la scène en serrant les fesses et en me disant surtout, garde-toi. Mais en fait, c'était la peur.
Il y a un film que vous devez absolument aller voir, Coupé de Michel Hazanavicius, que vous venez de raconter, puisque
vous auriez pu tourner dedans.
Il y a une mise en abîme sur les acteurs, les réalisateurs, la direction et comment un acteur ou
gère sa peur
ou gère sa gastro. Il y a des scènes comme ça qui sont à pleurer.
Mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie sur un plateau.
Ça peut se comprendre. HPI, ça commence demain 21h10.
Et désespéré.
Audrey, ouais. Se dire, on va donc se quitter là-dessus. Oui, on va se quitter là-dessus. Excuses à présenter pour Morgane Designan.
Oui, désolé pour Envoyé spécial avec Élise Lucet, Les Infiltrés de Scorsese, TPMP XXL, bref, désolé pour tous les programmes prévus demain en face d'HPI. Et oui, c'est injuste les gars, mais le monde est injuste. Désolé pour ma mère dont j'ai pas souhaité la fête des mères à la mauvaise date et dont j'oublierai probablement de le faire à la bonne. En
le
même temps, humoriste sur France Inter en termes d'ingratitude, on n'est plus à ça près. Désolé pour Daniel Morin qui a loupé son rendez-vous annuel avec Audrey Fleurot. Elle est pas dispo la semaine prochaine, t'inquiète mon Daniel. Nous, on est là, en additionnant tous nos cuits, on arrive à un honnête 56. Et enfin, désolé pour tous les pieds de table italiens mal fistés par Médine et vous. Il était un petit peu occupé là, mais bien sûr, l'été, Berlin, l'Italie, l'aéroport de Nice, vaste programme.
Si, vous avez dit ça. Merci Morgane, merci Audrey Fleurot, merci Anne Debout. HPI est une réussite pour la saison 1 et c'est déjà une réussite pour la saison 2. On l'a vu, croyez-nous, vous allez vous régaler à partir de demain 21h10 sur TF1. Et demain, donc, je l'avais teasé tout à l'heure, Louis Bertignac, Sex, Drug et Rock'n'Roll, c'est lui-même qui fait la vanne, mais c'est vraiment le propos de son livre où il raconte de jolies petites choses demain sur Inter.